avec les périodes, les Maupassants, les Renoirs et les Rembrandt, qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas, la culture est une valeur.
Bonjour Marie, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre journal de la culture. L'occasion de revenir ensemble sur les actualités culturelles de cette semaine. Et on commence tout de suite par l'agenda culturel.
Alors Mathilde, tu voulais faire le point sur le Festival de Cannes pour commencer.
Et oui Marie, parce qu'on connaît enfin le palmarès complet. Alors je commence par le prix d'interprétation masculine qui a été décerné à Vincent Lindon pour La Loi du Marché, qui est un film vraiment remarquable sur la difficulté d'un homme à se réinsérer sur le marché du travail.
Et du côté des femmes, Mathilde ?
Oui, alors puisque tu y tiens le prix d'interprétation
oui,
féminine.
En plus on a un plateau exclusivement féminin pour cette deuxième demi-heure.
Le prix d'interprétation féminine a été cette année partagé entre Rooney Mara pour Carole de Todd Haynes et Emmanuel Berco pour Mon Roi.
C'est quand il y a des femmes, on partage, et quand il y a des hommes, c'est pour lui tout seul.
C'est ça.
En tout cas, le prix de la mise en scène décerné a été décerné à Ousia Nsien, excusez-moi de ma prononciation. En tout cas, c'est un réalisateur taïwanais. Voilà. Bon, pour le grand prix du jury, qui revient au fils de Saul, c'est-à-dire du débutant hongrois. Bon, là encore, une prononciation remarquable de Laszlo
Nemes.
Merci Mathilde. Et c'est The Lobster de Yorgo Lanthimos qui a remporté le prix du jury.
Tu es viré pour cette prononciation.
C'est moi qui ai l'honneur de vous annoncer la Palme d'Or. Rien de très surprenant de ce côté-là, puisqu'elle a été attribuée à Jacques Audiard pour Dipane, je pense.
Toi aussi, tu es viré, Mathilde, en fait.
L'histoire d'un homme, d'une femme et d'une petite fille. Tous les trois sont des immigrés sri-lankais, d'où ma prononciation lamentable. Tous les trois fuient la guerre civile qui touche leur pays d'origine. Et ils doivent en fait se faire passer pour une famille dans une cité difficile en France.
Aurore, tu vas nous parler d'un événement que Transistor Chérie couvre cette semaine. Et je ne dis pas du tout ça parce que je suis menottée et entourée par Camille et par Céline qui modèrent des conférences là-bas. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, nos âmes de littéraires avouées ou refoulées s'émoustillent devant la programmation des Assises internationales du roman.
Alors, je suis sûre qu'un homme s'envoie en l'air sur la fiche de l'événement, mais tout de même, il s'émoustille sur quoi ?
Oh oui, parce que du 25 au 31 mai 2015, à la Villa Gilet, qui est en partenariat avec Le Monde, France Inter et les Subsistances.
Et nous, du coup ?
Réunis donc aux Subsistances des écrivains, des artistes, des chercheurs, des scientifiques et des penseurs du monde entier.
Et des journalistes de Transistor, voilà.
Alors on mélange le tout lors de débats et de tables rondes et ça donne un éclairage original sur des questions littéraires comme le crime dans la littérature ou le lien entre fiction et réalité. Mais c'est aussi un moment de création littéraire, jamais épuisé, car chacun des invités offre des textes inédits. Donc l'événement plaît à Transistor. Céline et Camille d'ailleurs y participent. Est-ce que vous auriez peut-être un mot pour nous dire, pour décrire ce que vous allez y faire ?
Céline, parle-nous de ton engagement aux ailleurs. Vas-y, on t'écoute.
Alors, d'abord, il faut savoir qu'on va faire des enregistrements de tables rondes et de rencontres qu'on diffusera plus tard sur notre antenne, donc dans l'écume des pages. Et puis moi, personnellement, je me suis beaucoup occupée d'une écrivaine, d'une auteure française en particulier, qui s'appelle Geneviève Rizac, qui a beaucoup écrit d'essais sur des femmes écrivains, donc ça me plaît particulièrement, et puis qui a écrit aussi un roman magistral en 2014, Dans les yeux des autres, que je vous conseille vraiment de lire.
D'accord. Quelque chose à ajouter, Camille ?
Venez, ça va être très intéressant. je tiens à préciser qu'il y a une petite différence entre les tables rondes aux Subsistances, où il y a plusieurs écrivains sur un thème, et ce que Céline et moi faisons, je crois, qui sont des rencontres, soit en bibliothèque, soit en librairie, avec un seul auteur. Et peut-être c'est une manière, les deux sont très intéressantes, mais la rencontre en bibliothèque ou en librairie permet vraiment de parler à l'auteur, de poser des questions, donc n'hésitez pas à venir, c'est plus intime.
Merci Camille. Et merci Céline.
Merci.
Et n'oubliez pas les Assises internationales du roman, c'est toute cette semaine.
Bon, Aurore, il me semblait que tu voulais faire un petit peu de prosélytisme de Bona
Onda. Oh, c'est fini les placements de produits pour toutes les émissions de Transistor, là.
C'est subtil, c'est subtil et
oui,
ça rentre dans
subtil.
Le journal de la culture. Parce que quand même, c'est le printemps, la primavera, comme on dit en espagnol, le soleil brille.
Je note que là, la prononciation, c'est mieux. Hein.
Parce que le soleil brille, les oiseaux chantent, on rédige nos mémoires, bref, le bonheur.
Oui.
Mais c'est surtout en ce moment, primavera latina, à Lyon, dans le cadre des Journées de l'Amérique latine et des Caraïbes, entre le 31 mai et le 7 juin, partout en France.
Oui, et ça, en fait, depuis 2011, on peut remercier le Sénat d'avoir mis en place cette journée.
Merci le Sénat
d'avoir mis en place cette journée de l'Amérique latine et des Caraïbes, tous les ans le 31 mai. Et les centres culturels français proposent à cette occasion des manifestations variées afin de mettre en valeur les différentes cultures et de renforcer les relations entre la France et cette région du monde.
Et à Lyon, ça se passe en ce moment. La revue Espace Latino s'associe au Musée des Confluences pour vous proposer la première édition de Primavera Latina, conçue comme une manifestation pluridisciplinaire autour des sociétés et des cultures latino le 26 et 27 mai. Aujourd'hui même, vous pourrez assister à la table ronde après les dictatures, la démocratie ou à la projection de Lumière.
Oui, j'ajouterai aussi que le musée du Quai Branly y participe et il propose le 31 mai de participer à l'exaltant atelier de création de paniers d'osier selon la plus pure tradition et de bouger son boule sur des rythmes colombiens et honduriens.
Ah, on peut twerker, mais alors j'y vais tout de suite, Mathilde.
Le tout accompagné de conférences et de débats.
Évidemment. Twerker sur des conférences et des débats, mais ça, si ça, c'est pas être badass.
Alors, vous l'attendiez, il est l'heure de notre quiz culturel.
Oui!
Alors, on commence avec ma première actualité hautement culturelle.
Je n'en doute pas.
Quelque peu décalée, mais bon. Elle concerne nos amis, les millionnaires chinois.
Un Van Gogh. C'est un Van Gogh.
Non. Alors, je ne sais pas si je suis la seule, mais personnellement, je ne laisse jamais des répliques loufoques que les portefeuilles des millionnaires chinois peuvent offrir à l'humanité. Après une réplique de Versailles et une ville entière construite pour être une réplique de Paris un peu kitsch, disons-le, je vous laisse deviner ce qu'un chef d'entreprise chinois a fait construire. Indice, il ne s'agit pas d'un monument historique, mais d'une référence à une série télévisée bien connue.
La cabine de Doctor Who.
On est à peu près
ouais,
dans...
On y est presque.
On est un peu
presque.
Dans un univers geek, oui, effectivement.
Oui. Univers geek.
Portail de Star Trek.
Camille,
quelque chose.
On touche la bonne série, effectivement.
Un vaisseau, l'étoile noire de Star Wars.
Ah, on était sur Star Trek. Mais tu as un vaisseau, donc si on réunit...
Marie-Ève, concentre-toi un peu.
On va réunir la réponse de Marie-Ève et la réponse de Camille. Et effectivement, il s'agit d'une réplique du vaisseau USS Enterprise de la série Star Trek. Pour la modique somme de 160 millions de dollars, ce millionnaire chinois s'est offert un siège social plutôt original pour son entreprise.
Voilà. Non, n'ose pas, ça fait très sérieux.
Place à la seconde actualité avec un indice musical. Still going strong. He's still going strong. Yeah, yeah. He's still going strong. Remember Ned Stark, he was a lot of fun, so but he didn't make it past season one. Robert Baratheon was part of that crew, but he never made it.
Alors, cette voix de baryton ne vous dit rien ?
Alors, moi, je précise que c'est scandaleux. Vous auriez dû préciser qu'il y allait y avoir des spoilers alertes. Vous allez vous faire détester par une partie de nos auditeurs. Je ne vous remercie pas. Voilà.
Mais ceci
étant dit...
Tout le monde le sait.
Alors, alors une petite idée
non,
de ce que c'est
idée. Ouais, Camille.
Game of Thrones en chanson ?
Ah oui.
En partenariat avec Coldplay.
C'est Peter Dinklage que vous avez entendu là. Mais si... Peter Dinklage, aka Tyrion Lannister, dans Game of Thrones. Alors pourquoi pousse-t-il la chansonnette ? C'est tout simple, le groupe Coldplay a eu la bonne idée d'écrire une fausse comédie musicale à l'occasion du Red Nose Day, une journée caritative pour l'association Comic Relief, diffusée le 21 mai dernier sur NBC. Donc cette fausse comédie musicale plonge dans l'univers de Game of Thrones et met en scène les personnages dans des chansons drôles et décalées. Donc on peut y entendre la Khaleesi dans un reggae, Jon Snow dans une chanson d'amour pour Ygritte, ou encore Jaime Lannister qui déclare sa flamme à sa sœur maîtresse Cersei en chantant « Pensez-vous à Geoffrey ? Quel gars fougueux ! J'étais son oncle, j'étais aussi son père. »
Et en anglais, ça rend mieux.
De l'inceste.
Spoiler.
Véritable buzz ou gros ramdam, si vous préférez la version non anglophone, sur Internet. Et on enchaîne maintenant avec un second indice musical. Je sais que vous en raffolez.
Alors, Alors, cette chanson, elle a été épinglée par une étude américaine qui s'est intéressée à plus de 200 tubes diffusés sur nos ondes. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, a valu à Maroon 5 d'être particulièrement mal classé par cette étude?
Parce que le fait que quand on l'a repris, quand on a fait Operation Christine, eh ben, c'était bien mieux et du coup, on les a complètement déclassés ce jour-là.
Je suis d'accord.
Il a participé à l'Eurovision, c'est pour ça. Ah,
ça répond vraiment complètement lui faire perdre toute crédibilité, effectivement. Non, des idées sur qu'est-ce qui est particulièrement honteux dans cette chanson? Non.
Ils n'ont pas demandé leur l'autorisation à Jagger pour...
Il faudrait savoir ça, mais en fait, il s'agit d'une étude qui compare les différentes chansons en fonction de la richesse lexicale que leurs paroles proposent. Alors, on comprend bien pourquoi cette chanson fait de nombreux « yeah ».
Mais ils ne connaissent pas l'Eurovision, ces gens-là.
Ils arrivent en fait en bas du classement avec ça. L'étude précise qu'un tel niveau de vocabulaire correspond à peu près à ce que pourrait écrire un enfant de CE2.
Alors, c'est méchant.
Notons que d'autres artistes tombent dans cette catégorie. Wide Awake, par exemple, de Katy Perry, figure parmi les chansons les plus simplistes. Alors quand même, petite mention honorable, hein, parmi les artistes aux chansons les plus riches, on trouve sans surprise Eminem et Mariah Carey.
Sans surprise, n'est-ce pas?
Alors c'est la fin de ce journal de la culture, le dernier de cette année. On vous remercie tous autour de cette table d'avoir participé à nos remarquables quiz culturels. On remercie nos auditeurs. On remercie également Pauline, mon acolyte habituelle, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui nous a accompagnés dans l'écriture de cette émission. Kiss cœur, Pauline.